Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des jeudis de l'économie. Nous allons parler ce midi de l'intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie en revenant sur un colloque organisé fin août par l'autorité de la concurrence. Nous sommes en compagnie de Stéphane Rotterer, le président de l'autorité de la concurrence. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter notre invitation. De Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. Bonjour.
Bonjour.
De Guillaume Martineau, membre consulaire de la CCI.
Bonjour.
Et d'Antoine Palma, le vice-président ou le co-président de NCT Anaï. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce colloque s'est déroulé les 27, 28, 29 août à Nouméa. Il était intitulé « Concurrence et intégration économique en petites économies insulaires ». Le contexte, c'est notamment la refonte du modèle économique calédonien, étant donné la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez participé les uns et les autres à ce colloque. Stéphane Rotterer, pourquoi est-ce que l'autorité de la concurrence a pris l'initiative de ce colloque? Quel était le but que vous poursuiviez?
Elisabeth, le but, en fait, on suit un peu le mouvement des entreprises, hein, parce qu'il faut reconnaître que les entreprises sont sur ce thème depuis, certaines depuis longtemps, et puis avec les événements encore plus de manière urgente. Le colloque, alors je ne vais pas revenir sur tout le colloque et tous les apports du colloque, mais peut-être juste dire deux piliers principaux de ce colloque. Un pilier intégration économique régionale, on va dire ouverture, quel degré d'ouverture de la Calédonie vers son bassin régional, la région, et vers où? Donc ça, c'est une question qui a été posée essentiellement à des économistes. Et puis un deuxième pilier qui est plus spécialisation, diversification, protection. Quelle spécialisation? Quelles sont les forces et les faiblesses de la Nouvelle-Calédonie? Il faut appuyer sur quelles entreprises, sur quel secteur? Ça, c'est la spécialisation, et avec une diversification et des choix qui devront être faits, évidemment, dans ce sens-là. Donc les économistes ont abordé tous ces sujets-là. Et puis la dose de protection nécessaire pour protéger nos économies, pas que l'agriculture, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un constat, je dirais, suite aux événements, où des entreprises, lorsqu'on a une baisse de la consommation de 10%, lorsqu'on a un moteur économique, qui est le nickel, qui s'effondre, lorsqu'on a une perte d'attractivité, eh bien, il faut se tourner vers l'exportation, aller chercher des marchés. C'est ce que font les entreprises actuellement. Et le gouvernement est là aussi pour voir si on va vers la Calédonie va vers un modèle d'intégration particulier. Il y en a trois, vous savez, trois accords de libre-échange, le PITA, l'accord mélanésien et le PASER+. Je m'arrête là.
Ça fait partie des missions de l'autorité de la concurrence d'organiser ce type de...
Non, mais
de
on a réfléchi depuis le moment. On accompagne notre partenaire, le gouvernement. On se pose des questions, puis on essaye, dans des moments difficiles, de trouver des synergies. Là, c'est avec l'université, de rapprocher les universités de la Nouvelle-Calédonie. On a La Réunion et les Antilles-Guyane qui étaient avec nous pour réfléchir, pour travailler sur ces sujets-là, qui sont l'intégration économique, qui sont aussi peut-être plus tard la vie chère. C'est aussi créer des liens. Voilà, c'est ça aussi.
Christopher Gigès, on parle beaucoup de refondation économique. On a lancé hier ou avant-hier le pacte de refondation économique, sociale et financière de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce type de colloque peut vous apporter des éléments de réflexion? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là également?
Oui, c'est forcément utile. Enfin, on l'a dit lors de la présentation des travaux sur le pacte, il y a un groupe de travail qui est destiné à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. L'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, on l'a affiché comme ambition lors de la répartition des secteurs, puisqu'on a créé ce secteur au sein de mon portefeuille. Et l'attractivité, c'est à la fois sur des investissements qui peuvent se passer en Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi une attractivité à l'export des produits et des services calédoniens. Donc ce genre de colloque, comme l'a dit le président, Ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs, de nous faire des relations. Et surtout, on met en place maintenant depuis plusieurs semaines une vraie structuration de l'attractivité et de l'export en Nouvelle-Calédonie, surtout en lien avec le secteur privé, donc avec InCTI, Team France Export, avec la CCI et l'ensemble des acteurs, parce que l'export peut être un formidable relais de croissance dans la période qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'idée est d'identifier les marchés qui sont pertinents dans la région, les produits et services qui sont pertinents à vendre à l'extérieur, et surtout aller, excusez-moi le terme, mais chasser en meute à la fois les institutions calédoniennes et le secteur privé pour que les entreprises calédoniennes puissent retrouver de l'activité et continuer à embaucher, qui est notre priorité.
Guillaume Martineau, les entreprises de la CCI sont intéressées par cette réflexion sur l'intégration régionale. Elles ont envie d'exporter, de faire connaître leurs produits à l'extérieur ou de simplifier les importations éventuellement ?
Alors, l'intégration régionale, oui, tout à fait. Enfin, le meilleur exemple qu'on a, c'est la participation des entreprises calédoniennes à chaque fois qu'on organise des missions dans le cadre de Team France Export à l'étranger. On a eu, par exemple, sur les deux dernières missions qu'on a eues, au Pacific Infrastructure Conference qui a eu lieu à Brisbane il y a deux mois, la délégation calédonienne était la plus grosse. Et de nouveau, lors du forum Union européenne-Île du Pacifique à Fidji le mois dernier, la délégation calédonienne était de nouveau la plus importante. Donc il y a une vraie demande de la part des entreprises calédoniennes, effectivement, entre autres parce que comme le disait Christopher Gigès, il y a besoin d'aller chercher des relais de croissance à l'étranger. C'est une question de survie pour la plupart d'entre elles. Oui.
Antoine Despalmans, on va terminer sur notre table avec vous. Alors NCTNI, c'est vraiment votre focus, l'intégration régionale. Que vous apporte ce genre de colloque, ce genre de réflexion générale, ça vous aide effectivement dans votre mission ?
Oui, alors c'est très important. On accompagne les entreprises à l'export depuis des années. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a pu avoir la démonstration l'année dernière que les entreprises qui exportaient, parce que certaines le font depuis très longtemps et avec succès, ont eu une résilience beaucoup plus grande aux problématiques économiques de l'année dernière et qui perdurent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même des preuves de l'importance d'exporter et d'étendre son marché. Le deuxième point, c'est qu'en effet, le nombre d'entreprises qui désormais souhaitent le faire et souhaitent le faire sérieusement augmente. Et nous, on a régulièrement des adhérents qui viennent nous voir. L'ensemble des démarches qui y a en ce moment, aussi bien les démarches de se rencontrer, de discuter, de réfléchir, ou les démarches de coordination menées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Team France Export, la CCI et le cluster, visent justement à aller chercher de l'efficacité pour que désormais, et ça c'est important, et c'est important aussi pour les entreprises, en effet, on accompagne correctement les entreprises dans les démarches à l'export. C'est compliqué. On est dans une zone anglo-saxonne. Il faut parler anglais. Il faut avoir des plaquettes en anglais. Donc, il faut vraiment accompagner les gens. Mais par contre, si on le fait comme on l'a fait sur les dernières missions, de façon efficace, on emmène et on embarque des gens. Il y a des gens qui savent le faire, qui le font depuis longtemps, qui aident. En tout cas, c'est la raison d'être du cluster, c'est de permettre à des gens qui savent le faire, d'accompagner des gens qui veulent le faire pour gagner du temps et pour le faire correctement. Et donc, toutes les démarches sont importantes aujourd'hui pour aider.
Ben justement, avant ce colloque ou dans l'état où on en est aujourd'hui, quel est l'état des lieux ? Avec quel pays aujourd'hui de la région Pacifique on a des échanges économiques ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut tout reprendre à zéro ou est-ce que déjà il y a un certain nombre de marchés qui existent ? Lequel d'entre vous veut se lancer ?
Bon, il y a des flux d'affaires très réguliers et historiques avec le Vanuatu. Il y a des flux d'affaires historiques avec la Nouvelle-Zélande, avec la Polynésie française. Donc il y a des choses qui existent déjà. Il y a déjà des choses bien implantées, Wallis et Futuna dans la zone, et des potentiels de marché qui sont déjà travaillés depuis quelques temps. Ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Christopher Gisès, y aller en meute, c'est être efficace et c'est montrer qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des entreprises qui ont des compétences, qui ont des expertises et qui ont des choses à amener à ces autres pays.
Concrètement, Christopher Gisès, quels sont les secteurs dans lesquels on peut effectivement exporter un savoir-faire ou exporter un certain nombre de produits ?
C'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'on arrive à identifier, parce que les marchés sont les marchés sont différents. On ne va pas vendre la même chose en Australie qu'au Vanuatu ou en Nouvelle-Zélande qu'en Polynésie. Mais on a un vrai savoir-faire en Nouvelle-Calédonie en termes déjà de produits agroalimentaires sur lesquels on peut se positionner. Sur l'agriculture, on voit le succès de la Chambre d'agriculture sur l'opération en Polynésie française il y a quelque temps sur de la viande calédonienne. Et on a un vrai savoir-faire dans le service à l'industrie, des services qui étaient liés à la mine et métallurgie. On a une mission qui va être portée par le président du gouvernement en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans quelques semaines, à laquelle sera associée plusieurs chefs d'entreprise dans différents secteurs d'activité. Et Guillaume pourra peut-être en dire un mot. Mais on a sur des produits de niche et des services une vraie plus-value. Mais il faut qu'on arrive à mettre les outils, et c'est le rôle du gouvernement pour ça, de ne pas se substituer aux entreprises, mais d'accompagner les entreprises, un, pour leur ouvrir les portes parfois directement sur place, mettre en place des outils de promotion des entreprises calédoniennes via des brochures, via des sites internet, via des dispositifs fiscaux qui sont incitatifs pour l'export. Mais en tout cas, pour le gouvernement, c'est pas un rôle de se substituer aux entreprises, c'est un rôle d'accompagnement des entreprises qui doit perdurer au-delà des mandatures.
Et alors, quels sont les freins? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Alors, on a bien compris qu'on le faisait.
Parce qu'on n'en avait pas besoin.
Parce que la situation économique est terrible.
On n'en avait pas besoin. Et ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un véritable relais de croissance. Il y a eu des entreprises qui ont fait ce choix de l'export, qui se sont structurées, mais c'est dur d'aller à l'export. C'est ce que disait Antoine tout à l'heure sur il y a des normes qui sont différentes, il y a la barrière de l'anglais qui est différente. Et le fait d'avoir Team France Export, donc qui est assuré par la CCI, qui est surtout en soutien avec Business France, qui permet d'avoir des relais aussi dans différents pays, différentes formations qui peuvent être réalisées. Et ensuite, c'est pas que la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la France. On est mauvais sur certains points. C'est-à-dire que sur la reconstruction au Vanuatu, par exemple, on a positionné des entreprises calédoniennes. On a envoyé une délégation pilotée par la CCI pour participer à la reconstruction au Vanuatu. Sauf qu'au Vanuatu, depuis des années, ou dans d'autres territoires, on a ce qu'on appelle des offres liées. C'est-à-dire qu'il y a des États qui viennent aider des pays, sauf qu'ils disent, nous, on vous aide à reconstruire ou à développer des choses dans votre territoire, mais vous devez faire travailler les entreprises de notre nationalité. La France ne fait pas ça. Et la France aide plusieurs pays de la région, mais par contre fait travailler des Australiens, des Chinois et compagnie. Non, donc on discute aussi, nous, avec le gouvernement national, pour leur dire, on ne demande pas que ça soit que des entreprises calédoniennes, mais si vous aidez des territoires du Pacifique, demandez que des entreprises calédoniennes ou françaises, enfin, calédoniennes sont françaises, puissent participer. Je crois que c'est beaucoup mieux que l'État nous aide à trouver du travail pour les entreprises plutôt que de donner des subventions à la Nouvelle-Calédonie.
Mais vous faisiez allusion tout à l'heure, l'axe Indo-Pacifique, qui est quand même l'une des priorités, a priori, de l'État aujourd'hui. Est-ce que c'est un argument supplémentaire pour les inciter à aider la Calédonie dans ses démarches?
Oui, c'est un vrai argument. Enfin, ensuite, l'axe Indo-Pacifique, on a beaucoup entendu parler, on a vu peu de réalisations sur ce sujet. Justement, on travaille au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour matérialiser cet axe Indo-Pacifique. On souhaite consolider les liens avec nos amis territoires français du Pacifique, la Polynésie française et Wallis et Futuna, où il faut un marché commun entre ces territoires. Il ne faut pas que des petits accords entre ces territoires. Il faut un marché commun, une zone de libre-échange, et qu'on puisse ensuite échanger entre océan Pacifique, océan Indien avec la Réunion, puisque maintenant on peut faire Nouméa-Bangkok, la Réunion en vol à peu près direct. Mais l'axe Indo-Pacifique, il est surtout économique avant d'être politique.
Stéphane Rosserer, est-ce que ce colloque a permis d'identifier les points de blocage et les domaines dans lesquels il fallait vraiment intervenir pour favoriser ces exportations?
On a abordé beaucoup, beaucoup de sujets, mais pour reprendre celui qui vient d'être évoqué par Christopher Gigès, le dernier jour, donc partenaire, on était en partenaire avec le gouvernement et la CCI, donc on a fait les derniers jours, justement, c'était plutôt la parole donnée aux entreprises, et on a abordé ces questions de transport, de routes maritimes. Et il est certain qu'aujourd'hui, parlons que de la Polynésie française, on est un peu loin, certes dans le Pacifique, mais ça reste la France. Il y a beaucoup de choses à améliorer en termes de droits de douane, en termes de routes commerciales, en termes... Voilà, et ça, c'est des projets, on en parlait tout à l'heure avec Team France et NCTI, c'est se dire que peut-être qu'une route commerciale partant de la Nouvelle-Calédonie vers la Polynésie française, en faisant des stops au Vanuatu, au Fidji, avec des bateaux qui sont dimensionnés, peut favoriser les échanges, déjà là où on a des forces considérables, c'est-à-dire dans notre territoire d'outre-mer. Je dis la même chose pour la Réunion, et je dirais la même chose pour les Antilles-Guyane, même si c'est éloigné. Il y a une convergence qui est possible.
Mais alors ça dépend de qui. Qui est-ce qui peut mettre... Antoine Despalmas, peut-être, qu'est-ce qui peut mettre en place ces structures de transport qui permettraient de développer l'économie?
Ce qui est important, c'est qu'on se parle. Et le fait nouveau, à mon sens, c'est que désormais, les acteurs économiques et les acteurs politiques s'alignent. On partage régulièrement les feuilles de route, on partage régulièrement les besoins des entreprises, les destinations. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé cette année et qui porte déjà ses fruits. Parce que, en effet, déterminer les priorités, ça permet à tout le monde d'aligner les actions. Il n'y a pas de commerce sans connectivité. On a besoin d'avions, on a besoin de bateaux pour aller sur les territoires sur lesquels on veut aller, sans quoi c'est très compliqué. Et en effet, voilà, il faut s'aligner, il faut déterminer des priorités et y aller ensemble.
Guillaume Martineau, vous partagez cette nécessité de la connectivité?
Oui, tout à fait. Et j'en profite pour dire qu'il y a des initiatives privées qui se font. Hein. On avait, lors du forum à Fidji, parmi la délégation calédonienne, une entreprise s'appelle la Compagnie Maritime des Îles, qui, eux, sont en train d'ouvrir une route pour desservir la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, Wallis et Futuna et Fidji. Justement avec des navires qui sont adaptés au commerce entre ces territoires.
Ce sont des initiatives que le gouvernement peut aider, doit aider
Doit aider, enfin c'est je vous dis, enfin, nous on est là pour favoriser l'initiative privée. On n'est pas là pour se substituer, on est là pour vraiment accompagner ça. Et on était très heureux d'avoir la CMI à Fidji avec d'autres entreprises. Mais, et vous parliez du plan de refondation. Aujourd'hui, on doit se mettre dans une logique sur tous les secteurs d'activité, d'aider ce qui a du sens. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler ensemble pour définir les activités qui ont du sens à l'export, plutôt que chacun décide dans son coin de faire quelque chose et au final, il voit que ça ne marche pas et donc vient demander des subventions parce que ça ne marche pas. Là, aujourd'hui, on a cette feuille de route commune, on a ce comité restreint avec les deux entités qui s'occupent réellement de l'export, donc NCTI et Team France Export CCI, mais en lien avec l'ensemble des chambres consulaires, l'ensemble des organisations patronales, l'ensemble des syndicats professionnels. Vous voyez, enfin, la situation du BTP aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie est très complexe. Quand on était à Fidji, on a aussi évoqué des chantiers qui pourraient être assurés par des entreprises du BTP en Nouvelle-Calédonie. Mais même si la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie va reprendre de l'activité économique, il faut poursuivre cette activité à l'export parce que l'activité à l'export, ça nous permet de nous confronter un peu au monde réel et à la compétition, et ça permet de s'améliorer, d'améliorer sa compétitivité. Et souvent, ça montre aussi que les entreprises calédoniennes, elles sont bonnes, nos entreprises.
Mais justement, quelles entreprises calédoniennes peuvent être intéressées vraiment? Parce que c'est un autre dimensionnement. Je veux dire, si on produit uniquement pour le marché calédonien, ou si on vise un marché de plusieurs millions ou plusieurs milliers, en tout cas, de personnes, j'imagine qu'il faut s'adapter et il faut y réfléchir avant.
Oui, mais alors on n'exporte pas que des produits, on peut exporter des services. Et d'ailleurs, les services s'exportent plus facilement que des produits. Et quand on a des entreprises dans la métallurgie qui ont des compétences extrêmement élevées en Nouvelle-Calédonie et bien plus élevées que ailleurs dans la région, et des soudeurs très qualifiés peuvent, juste en prenant un avion, d'où l'importance d'avoir un avion, aller travailler dans d'autres territoires de la zone. Et donc les services, c'est assez facile. La production, ça peut être plus compliqué. Mais il y a de la production de qualité, on a de la production de haut niveau, on a une agriculture de haut niveau, et voilà, en se donnant les moyens, il y a des choses qui fonctionnent et qui ont fonctionné par le passé. Donc on n'est pas sur des choses très nouvelles, hein, c'est plutôt une continuité.
Guillaume Martineau.
Oui, pour compléter, on a effectivement, parce que entre autres, on a un secteur de la mine qui est assez développé en Nouvelle-Calédonie, des entreprises qui ont des vrais savoir-faire. Par exemple, donc la mission qui va avoir lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée à la fin du mois, c'est à 90% des entreprises du secteur de l'industrie, de la métallurgie, qui viennent parce qu'il y a du potentiel en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont les mêmes besoins qu'on a. Et parce que ce sont alors la Papouasie fait un peu figure de géant dans la zone, mais ça reste des économies qui sont à peu près à notre échelle, qui intéressent pas forcément des très grandes multinationales, et donc il y a des vraies cartes à jouer pour les entreprises calédoniennes. J'en profite aussi pour dire au niveau institutionnel. On a eu souvent, alors quand on a eu des délégations étrangères qui sont venues en Nouvelle-Calédonie, il y a un intérêt certain sur certains accords de coopération qu'ils aimeraient avoir avec nous, justement parce qu'on n'est pas des gros. Ils n'ont pas peur de nous. Je pense en particulier, encore une fois, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque c'est un territoire que je connais bien. Il y avait eu, dans le cadre d'échanges qu'il y avait eu auparavant, des accords signés de coopération sur la rédaction d'un code minier pour la Papouasie. En s'inspirant un peu du nôtre, d'autant plus qu'ils étaient vraiment intéressés ils avaient été surpris par les montages avec des grands groupes internationaux pour exploiter notre source qu'on avait pu faire en Calédonie, alors qu'eux se font littéralement piller les leurs.
Voilà. Et donc ils pourraient s'inspirer d'un certain nombre de textes que nous on a déjà adoptés.
Absolument.
On parle aussi d'accords de libre-échange, est-ce que c'est envisageable et avec qui? Et là, ça passe par qui, encore une fois? Ce sont les autorités gouvernementales là, qui peuvent mettre ça en place, non?
Ouais, c'est... aujourd'hui, c'est une compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais qui doit être validée par l'État. Demain, quand Bougival sera adopté, et je souhaite que Bougival soit adopté, ça sera une compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie sur les compétences qui lui sont accordées. C'est-à-dire que si on empiète sur des compétences qui sont de l'État, il y aura un accord national qui est demandé. Mais aujourd'hui, on en a un avec le Vanuatu d'accord de libre-échange qui en passe d'être conclu. C'est un petit accord, mais il faut le finaliser. Les vrais accords aujourd'hui se discutent avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, notamment pour favoriser les échanges avec ces territoires. Mais on souhaite aussi pouvoir en faire un avec Fidji pour développer les échanges. Mais avant les accords de libre-échange, il y a des choses à réaliser qui sont des conventions fiscales, notamment pour éviter des doubles taxations entre les opérateurs. Là aussi, dans le cadre de la mission reconstruction, on est en train de voir si les conventions fiscales qu'à la métropole ne peuvent pas être élargies à la Nouvelle-Calédonie. Comme ça, ça nous permettra de développer davantage d'échanges. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on parle d'export depuis tout à l'heure sur le côté ouverture régionale. Nous, on est vraiment dans une logique d'attractivité. C'est-à-dire qu'on a une attractivité à l'export, mais aussi on a une attractivité à faire venir des investisseurs en Nouvelle-Calédonie avec différents dispositifs à mettre en place incitatifs pour qu'ils puissent venir. Et on a besoin de monde en Calédonie aussi pour pouvoir se développer. On n'est pas assez nombreux sur ce territoire, donc on a besoin d'avoir des relais aussi de population.
Stéphane Montereur, qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace pour permettre cette intégration économique? C'est effectivement ces accords de libre-échange, cette exportation, ou au contraire faire venir du savoir-faire en Nouvelle-Calédonie? Il faut jouer sur les deux.
Bien sûr, il faut jouer sur les deux. Alors, vous avez bien compris que l'autorité de la concurrence n'est pas une spécialiste des accords, des libre-échanges, ni de l'investissement. Mais nous, on a invité les trois accords qui existent dans le Pacifique. Hein, le PICTA, le MIFTA, le Melanesian Trade Agreement, et le PASER+. On a le secrétaire général du PASER+, qui est venu. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les accords de libre-échange, ils évoluent. Hein. Le PASER+, est entré en vigueur en 2001. Disons qu'il y a 10 pays maintenant qui sont membres, donc des pays qui sont membres sur les trois. Le Vanuatu, par exemple, est membre sur les trois accords. Hein. Donc voilà, le Salomon aussi, hein. Les îles Salomon. Donc ce sont des accords qui deviennent beaucoup plus flexibles et qui évoluent, surtout en 2022. Et le PASER+, il nous a très bien expliqué quelque chose qui est très intéressant, c'est que ces accords de libre-échange, vous l'avez bien compris, l'intérêt c'est d'avoir les droits de douane à zéro sur certains produits qui seront négociés. Ça veut dire pour les entreprises une compétitivité, puisqu'ils n'auront pas à payer les droits de douane soit à l'importation, soit à l'exportation. Donc c'est important. Avec une normalisation qui permettront aux entreprises de pouvoir exporter ou importer, donc c'est important. Et l'intérêt du PASER+, je cite le PASER+, parce qu'il n'y a que le PASER+ qui est venu, hein, mais c'est de pouvoir négocier ça comme on veut, c'est-à-dire par secteur, on choisit, on fait du sur-mesure, et sur 20 ans. Et en plus d'avoir une assistance financière à la négociation de ces accords. Ce n'est pas négligeable. Voilà, je fais une petite parenthèse sur le PASER+, qui était présent avec nous.
Christopher.
Oui, et on a eu un rapport qui nous a été donné, financé par l'Australie, justement, pour les avantages du PASER+ pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, on aura l'occasion très prochainement d'évoquer le sujet au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès pour savoir si on rentre et comment on rentre pour la Nouvelle-Calédonie. Et il y a un point extrêmement important quand j'ai pu échanger avec les autorités australiennes. australienne à Canberra, c'est que au-delà des droits de douane ou autres, il y a un accompagnement du gouvernement australien à pénétrer le marché australien. Parce que c'est bien les droits de douane, c'est bien tout ça, mais pour pouvoir rentrer sur le marché australien pour une entreprise, si on peut être accompagné et avoir des réunions qui sont organisées avec les bons acteurs, c'est quand même plus facile pour les entreprises qui est donné.
Je pourrais dire qu'en effet, c'est un accord global sur l'investissement aussi, sur la mobilité aussi des travailleurs, sur les services, etc. C'est vraiment un accord global.
Alors, on parlait d'exportation effectivement beaucoup, mais il y a aussi les importations. Vous disiez tout à l'heure, Antoine Despalma, quand il y a un certain nombre de freins ici, parler la langue, etc. Là, on est un peu bloqué sur les importations, sur les normes. On a quand même des normes européennes qui sont pratiquement imposées. Est-ce que c'est un frein là aussi qu'il faut faire sauter? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Je suis moins compétent sur les importations. Notre travail, c'est plutôt d'aider les gens à exporter. Mais le sujet des normes...
L'intégration, ça fait partie...
Le sujet des normes est le même sujet dans l'autre sens, d'ailleurs, parce que dans la région, il n'y a plutôt pas des normes européennes. Donc, quand on exporte des produits calédoniens, enfin, produits en Nouvelle-Calédonie, il y a des sujets normatifs. Moi ce que je... Enfin, ce sujet-là, je pense que... Pour exporter correctement dans les pays, il faut aussi accepter que les pays... ou que les entreprises des autres pays viennent faire du commerce ici, c'est plutôt un sujet de culture, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on prône, c'est aussi la culture du partenariat, c'est-à-dire qu'il y a des terreaux d'accords qui doivent être passés, il y a des portes qui doivent être ouvertes par les gouvernements, et quand le président du gouvernement se déplace dans un pays avec des entreprises, ça accompagne quand même le mouvement. Et ensuite, il y a une culture des entreprises à l'export, les anglo-saxons le font très bien, c'est la culture du partenariat. C'est y aller en groupe, et parce que quand on est nombreux, c'est important. Et le sujet de l'attractivité est important. Le sujet, il est quand même systémique, il ne faut pas qu'on les voit séparément. Quand une entreprise calédonienne va sur un nouveau marché, elle doit bénéficier de l'image de la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, on se rend compte quand on se déplace que nos partenaires et nos voisins nous connaissent assez peu et n'ont pas idée de la technicité, de l'excellence des entreprises calédoniennes. Donc... valoriser la Nouvelle-Calédonie et développer l'attractivité, c'est aussi aider les entreprises à aller sur d'autres marchés parce qu'on bénéficie d'une image positive. Et c'est vraiment ça au quotidien. Donc il y a un travail à faire. Et le voir globalement, c'est très important et ça aidera le mouvement.
Pourquoi est-ce que la région nous connaît aussi peu, la Nouvelle-Calédonie? Guillaume Martineau, vous avez une explication? On a délaissé ce terrain-là pendant des années?
Oui, mais bon, déjà il y a la barrière de la langue. Ensuite, bon, il vous a pas échappé qu'on appartient à un ensemble plus grand, et donc on n'a pas eu nécessité jusqu'à maintenant d'aller chercher les pays de la zone. Ce que recherchent les États insulaires, c'est aussi du financement. Et nous, on est petit et on a peu à offrir. Et en général, ça venait plutôt de la France que de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est historiquement comme ça. Hein, les États, les pétomes français vivaient un peu en autarcie sur notre zone, et puis les autres pays de la région étaient plutôt sous. Alors je dirais pas domination, mais sous emprise des poids lourds régionaux, en particulier l'Australie.
Christopher Gilles, donc
c'est ce qu'on essaye, pardon. C'est cette barrière là qu'on essaye de briser.
C'est en fait la situation, paradoxalement, la situation économique actuelle de la Nouvelle-Calédonie, le rétrécissement du marché intérieur qui oblige aujourd'hui à se tourner vers les pays de la région. Et quelles sont les priorités? À quoi est-ce qu'il faut s'attaquer d'abord?
Il faut s'attaquer à beaucoup de choses en ce moment, mais oui, c'est la situation actuelle qui fait qu'on se structure mieux et qu'on avance plus vite, mais ça reste une nécessité même si on allait mieux. C'est un vrai sujet. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que nous, au niveau du gouvernement, on essaye aussi de faire comprendre aux entreprises nationales et aux entreprises européennes que la Nouvelle-Calédonie peut être un peu le porte-avions économique de la France et de l'Europe dans le Pacifique, pour aller s'attaquer à d'autres marchés, pour aller s'attaquer au marché australien, pour aller s'attaquer au marché néo-zélandais ou à d'autres, ou à rayonner dans le Pacifique. Et ça, donc ça, c'est vraiment notre rôle. Donc les priorités qu'on a eues sur ce sujet, c'était déjà que tout le monde soit autour de la table et discute ensemble. C'était pas gagné. Hein. Enfin, là, je suis très content qu'il y ait un discours qui est aligné sur la partie du monde économique, parce que c'était pas forcément le cas au début. On a un planning commun, on a des ambitions communes. Il y a des choses qui sont pilotées par le gouvernement. Il y a des choses qui sont pilotées par le secteur privé en fonction des sujets. Le gouvernement, il est au service des entreprises à chaque fois qu'il se déplace pour aller conquérir des nouveaux marchés. Donc, on a vraiment structuré notre feuille de route. Aujourd'hui, aujourd'hui, on voit plus loin sur le fait d'avoir ces accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour renforcer ça. D'avoir ce marché commun avec la Polynésie française et Wallis et Futuna, pour nous, ça reste une priorité absolue d'avoir ce marché commun qui va permettre qu'on soit plus chacun 270 000 habitants de chaque côté, mais qu'on soit un marché de plus de 500 000 habitants et donc bénéfique aux entreprises, et qu'ensuite on puisse regarder du côté de l'océan Indien pour encore augmenter cette taille critique. Il faut avoir de l'ambition pour la Nouvelle-Calédonie et de l'ambition pour nos entreprises, et c'est ce qu'on essaye de faire.
Antoine Despalmas, vous rejoignez ces priorités, c'est celle-là également ?
Ah oui, complètement. Et prendre le sujet par l'angle économique, à mon avis, est nécessaire dans la mesure où l'économie et les entreprises sont pragmatiques. Soit le sujet est viable et rentable et on le fait, soit on l'arrête. On est sur un principe de réalité très rapide. Et l'autre intérêt, c'est que le monde économique est capable de nouer des partenariats avec ses homologues. Nous, chez NCTI, on noue des partenariats avec nos homologues en Australie qui s'appellent APIBC, ce qui a permis d'aller à Brisbane, d'être invité dans des grands forums d'infrastructure. On noue des partenariats avec nos homologues en Polynésie française, à La Réunion, puisqu'il y a des clubs d'affaires qui sont développés un peu partout. Et ça permet de créer des réseaux. Et le sujet, c'est de faire partie des bons réseaux, d'avoir les bonnes informations et d'avoir le bon niveau d'accord et de liaison qui nous permettent de faire ce commerce. Donc c'est vraiment une fusée à plusieurs étages, et les étages sont tous aussi importants que les uns que les autres, mais il faut qu'ils soient là tous.
Guillaume Martineau, chef d'entreprise calédonien, aujourd'hui sont persuadés de cette nécessité de l'intégration ?
En tout cas, en partie. Enfin, ceux qui participent aux missions le sont, ça c'est une certitude. Après, il faut aller en chercher d'autres. Pour revenir sur ce qui a été dit un peu, ce qui est important, c'est qu'effectivement, maintenant, nous, on parle d'une seule voix à l'étranger, hein, tous sous la bannière TFENC, ce qui est bien, parce que c'était pas le cas avant. On a des plannings avec des missions sur toute la zone qui sont travaillées à l'avance, avec des missions qui sont refaites les années suivantes, justement avec ce suivi qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est très important. Nous, notre rôle, que ce soit la CCI ou NCTI dans le cadre de TFE, c'est d'ouvrir les marchés pour les entreprises. Ils viennent, les missions, c'est un outil extraordinaire, d'autant qu'en plus on bénéficie de subventions du ministère des Outre-mer pour ce faire. Ensuite, c'est effectivement aux entreprises de faire leur choix, de savoir si le marché est attractif pour elles ou pas, et si elles franchissent le pas ou pas, que ce soit de l'export ou même de l'implantation de filiales, hein, puisque ça peut être aussi un moyen ensuite d'exporter de la valeur économique depuis la Nouvelle-Calédonie. Ouais.
Pour conclure, Stéphane Rotherreur, vous y croyez maintenant ? Vous pensez que ça y est, il y a une prise de conscience aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie de cette nécessité de l'intégration dans la région ?
Non, mais vous voyez bien, comme j'ai commencé en parlant d'accompagner ce mouvement des entreprises, il est là, le mouvement de l'entreprise. Ce colloque, il était là juste pour accompagner ce qui est déjà là. Donc oui, alors pour terminer, oui, je dirais... quelle intégration économique régionale, ça appartient aux entreprises, mais aussi au gouvernement, hein, c'est des choix d'orientation. Et puis, quelle politique industrielle qui va derrière, c'est-à-dire de soutien aux filières. Et ça aussi, c'est un choix, hein, éviter les saupoudrages et aller vers des filières qui ont de l'avenir. Voilà, là, c'est l'enjeu que les entreprises et la Calédonie ont actuellement pour demain.
Ce colloque que vous aviez organisé, il a répondu à vos attentes. Les actes ne sont pas publiés.
Alors,
encore,
on va faire une petite synthèse des travaux qui sera remis au gouvernement très prochainement. Ça sera, et puis il y aura les actes du colloque. Mais on va continuer. Hein. On a pris des contacts avec l'Outre-mer pour travailler sur des sujets qui seront remontés au gouvernement. Si elle en est d'accord, il y a beaucoup de projets. C'est un premier pas, on va dire, hein, vers, vers quelque chose qui doit être continué par essentiellement les universitaires, puisque c'est un réseau universitaire, mais nous, on sera avec eux et on continuera à proposer des choses avec les entreprises et au gouvernement.
Christophe Gégès, vous ne me contredirez pas, beaucoup de travail, beaucoup de chantier encore, hein.
Oui, encore beaucoup de chantiers, mais il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour pouvoir avancer. On va prendre des décisions, on va essayer d'aller chercher différents marchés. On n'a plus le temps de perdre du temps sur beaucoup de sujets. La Calédonie a besoin globalement de se réformer, de simplifier, d'accompagner ces entreprises. Enfin, en tout cas, moi, je vois les entreprises qui se positionnent à l'export de manière régulière. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on est extrêmement fiers de nos entreprises calédoniennes, parce que c'est Antoine qui disait tout à l'heure, on a dans la région, on a une technicité des entreprises calédoniennes qui est méconnue, et on a une vraie technicité où parfois on s'auto-flagelle nous aussi. Et vraiment, le gouvernement sera aux côtés des entreprises, localement déjà pour leur simplifier la vie, leur alléger le poids des charges qu'on peut leur mettre, et on sera à leur côté pour se développer à l'export en lien avec les acteurs privés. Je vous dis, ce que disait NCTI tout à l'heure, c'était vraiment le mot pragmatique, c'est-à-dire qu'une mission qui est une mission économique, c'est pas une mission politique où parfois on perd un peu trop de temps et qui coûte très cher, c'est une mission qui est pragmatique où il faut aller chercher des marchés.
Eh bien, merci à tous les quatre de nous avoir fait partager vos réflexions sur cette nécessité de l'intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie. La fin de ces Jeudis de l'économie, vous pourrez dans un instant les visionner ou les réécouter sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.
C'était les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.